Rodica Negroyou, la diabolique de Nancy. Narration, Florent Houlier. Qui est Rodica Negroyou? Originaire de Roumanie, Rodica a été condamné en France à 20 ans de réclusion criminelle dans 3 affaires de meurtre, en 1982, 87 et 90. Après sa sortie de prison, elle cherchera par tous les moyens à réhabiliter son image en clamant son innocence à la télévision. Se pourrait-il que ces 3 morts pour lesquelles elle a été condamnée étaient accidentelles, comme elle continue à l'affirmer? Nous sommes le 14 décembre 1990. En fin de journée, un habitant de la banlieue de Nancy contacte le SAMU. Son voisin, Raymond Jactel, 82 ans, vient de s'effondrer sur le trottoir de sa propriété alors qu'il déblayait de la neige. On sait que l'homme a une santé fragile. Il avait recours au service d'une aide-soignante privée. Les secours arrivent aux alentours de 20h. Raymond ne respire plus. Il a fait un arrêt cardiaque. Transporté aux urgences à l'hôpital central de Nancy, il n'est pas réanimé. Le diagnostic est vite posé, c'est un infarctus foudroyant. L'acte de décès est signé par le médecin de l'hôpital à 20h30. Mort de cause naturelle. Cependant, les voisins n'y croient pas vraiment. Toute l'attention se tourne vers Rodica Negroyou, l'aide-soignante qui vit en permanence chez le vieil homme depuis 2 mois. Pour faire taire la rumeur, elle n'a cessé de dire qu'il s'agissait d'un contrat formellement établi entre elle et son patient. En effet, 2 mois avant de mourir, Raymond Jactel et Rodica Negroyou ont été tous les deux signataires d'un contrat de mise en viager de la propriété. Les termes incluaient une rente mensuelle de 2000 francs, environ 300 euros, et un entretien de la santé du vieil homme jusqu'à la fin de ses jours. Une fin de vie qui est arrivée de manière bien précipitée. Sans compter qu'au cours de l'été de la même année, le vieil homme s'était confié à ses amis de voisinage sur sa santé qu'il sentait déclinante. Les derniers mois, il commençait à penser que Rodica, qui s'occupait déjà de lui depuis 2 ans, en voulait à sa vie. Cette femme, originaire de Roumanie, est réputée pour son côté très autoritaire. Elle ne faisait rien pour se faire apprécier de ses voisins. Raymond Jactel, ancien militaire à la retraite, très apprécié de tous, a perdu sa femme. On lui connaît un héritier, Claude, son fils adoptif. Pourtant, ce n'est pas ce dernier qui s'occupe d'organiser les funérailles. Mais Rodica. Un voisin et ami proche du défunt contacte la gendarmerie de Vendeuvre-lès-Nancy. Il raconte que depuis la mort de Raymond, Rodica a un comportement suspect. Elle ne paraît aucunement affectée par le décès de son patient. Bien au contraire, elle semble profiter de la tragédie pour vider son logement. Ni les voisins ni la police ne sont au courant de la mise en viager de la demeure. Les proches du défunt affirment que cette femme a toujours cherché à manipuler cet homme affaibli depuis qu'il est veuf. Pour lever le voile sur ses doutes, un policier mène personnellement l'enquête. Il apprend qu'elle a fui la Roumanie avec un fils, où elle était infirmière. Son diplôme n'étant pas reconnu en France, elle est devenue aide-soignante. Rodica Negroyou est légalement en droit de posséder la maison de M. Jactel. En revanche, le fait que ce contrat ait été signé 2 mois avant le décès et dans la période durant laquelle Raymond Jactel se plaignait de son aide-soignante suscite de vraies interrogations. Quelques jours plus tard, un homme se présente à la poste avec 3 bons du trésor, des titres d'emprunt possédés par Raymond Jactel garantissant sa fortune. Ce dernier était à la tête de près de 700 000 francs en bons anonymes qui devaient revenir à son fils adoptif. Pour encaisser les bons, il faut présenter une carte d'identité. Le guichetier demande à cet homme de présenter ce document. Ce dernier quitte le bureau précipitamment, sans insister. Cette accumulation de suspicions pousse le patron du commissariat de Vendeuvre-lès-Nancy a rédigé un rapport dans lequel il exprime toute une série de doutes. Ce même rapport est transmis au parquet de Nancy. Le juge d'instruction demande à ce que les investigations soient poursuivies. On découvre notamment que cet inconnu, qui cherchait à encaisser les bons à la poste, n'était autre que Roger, le compagnon de Rodica. Des fouilles au domicile de la victime révèlent que la totalité des bons a disparu. Le notaire déclare également que le compagnon de Rodica, selon le Nouveau Testament de Raymond Jactel, est devenu le nouvel héritier de la fortune du vieil homme. Ce testament a été changé peu de temps avant sa mort. Le juge d'instruction y voit là une manipulation de la part de cette femme qui aurait pu conduire à un meurtre. Dans une information judiciaire datant du 19 décembre 1990, il demande à ce que le corps de Raymond soit exhumé pour être autopsié. Si, en apparence, le corps présente les signes d'une mort naturelle, l'analyse toxicologique révèle la présence de digoxine et de phénobarbital, des substances présentes dans certains types de médicaments. La digoxine, à très petite dose, est bénéfique pour soigner les affections du cœur, tandis que le phénobarbital n'est administré que dans le cadre de crises d'épilepsie. Raymond Jactel ne possédait pas de tels antécédents médicaux. Il souffrait de diabète et d'hypertension. De plus, selon le taux retrouvé dans son sang, ces deux substances ont été administrées en trop grande quantité. Les enquêteurs soupçonnent Rodica Negroyou d'un empoisonnement volontaire. En tant qu'ancienne infirmière, elle connaît la dose à ne pas dépasser. Rodica est convoquée à la gendarmerie pour s'expliquer sur cette grossière erreur médicale. Les enquêteurs font face à une femme mutique, qui se dit beaucoup trop terrifiée à l'idée d'être accusée de meurtre pour parler. Elle fait appel à un avocat, Maître Alimbert, qui œuvre pour la disculper. Selon les propos de Rodica, elle ne sait pas comment cette substance a pu se retrouver dans le corps de son patient, puisqu'elle n'en a jamais fait usage. Elle refuse également de donner le nom de la pharmacie dans laquelle elle a l'habitude de se procurer les médicaments pour Raymond Jactel. C'est son droit. Une ordonnance médicale à son nom finit par être retrouvée dans une des pharmacies du centre-ville. Celle-ci déclare que Rodica Negroyou est venu récupérer ce médicament le 29 août 1990. Le médecin qui suit Raymond affirme que ces deux médicaments ne lui ont jamais été prescrits. De plus, les pathologies de son client ne justifient pas un tel décès brutal. Pour l'heure, Rodica Negroyou n'est pas encore arrêté pour meurtre. Les enquêteurs veulent en savoir plus sur cette femme qui a tendance à se placer en position de victime. Ils découvrent que Rodica a été mariée une première fois avec un certain Gérard et lui, qui a aussi connu une mort brutale. Rodica Negroyou est originaire de Bradulet, en Roumanie. Elle naît en 1939 dans une famille très modeste. Son enfance est marquée par la misère d'un pays écrasé par le régime communiste. Les denrées sont rares. Rodica vit simplement, sans aucun bien. Au contraire du reste de sa famille, elle veut s'en sortir à tout prix. Elle décroche un emploi de dactylographe dans une usine d'ampoules. Elle finit par faire la connaissance d'un cadre administratif, Hermann Goldstein. Son mariage en 1976 marque un tournant dans sa vie personnelle. Désormais, elle est à l'abri du besoin. Le couple a un fils, prénommé Marius. Mais très vite, la tragédie la rattrape. Hermann meurt brutalement en 1982. Rodica, désœuvrée, reprend le chemin des études. Elle s'intéresse à la médecine et décroche un diplôme d'infirmière. Elle exerce quelques années dans un hôpital psychiatrique avant de partir en France en 1985. Elle pose ses valises à Maxéville, dans la banlieue de Nancy. Son fils Marius l'accompagne. Là-bas, elle travaille en qualité d'aide-soignante. Selon l'avis de ses collègues, c'est une femme très travailleuse qui connaît bien son métier. En revanche, elle est très peu appréciée pour son fort caractère. Rodica est décrite également comme insensible. On lui colle aussi une réputation de séductrice. Cette femme, qui en 1985 est âgée de 46 ans, se montre rapidement attirée par des hommes plus mûrs. En octobre de la même année, elle fait la connaissance de Gérard et lui, 68 ans. Les sœurs de Gérard, tout comme ses enfants, n'aiment pas Rodica. Rodica s'arrange pour éloigner le vieil homme de sa famille. Il est pourtant décrit comme très sociable, mais également très influençable. Le 7 décembre 1985, Gérard et Rodica se marient à la mairie de Nancy, dans le plus grand secret. Même les enfants de Gérard ne sont pas invités au mariage. Il n'y a aucune fête, et plus étrange encore, pas de véritable relation de couple. Rodica et Gérard ne vivent pas ensemble. Lui vit à Custine et elle continue à vivre dans sa maison de Maxéville.